Dania, Marquesi, Dania, tappi, camera
fuori. So, solidarité, avec le sans-papier.
Jean-Pierre-Mont.
Ils ont mis des papas
oui.
Ou des mamans en prison.
So, so, solidarité, avec les sans-papier.
RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.
C'est toujours sympa de dire merde. Hein. Les tests, oh, ceux sont d'un autre âge. Ils te disent merde, mon cartilage. Les tests.
Bonjour, comme tous les mercredis de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue et www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout, à condition d'être pourvu d'une connexion. Cette émission sera rediffusée lundi matin de 7h30 à 8h30 et très bientôt téléchargeable sur le site du RESF à la rubrique radio. Et pour y aller, c'est très simple. Soit vous y allez directement en faisant http://resf.info/radio, soit vous vous arrêtez à resf.info, vous vous baladez sur le site, vous gagnez toutes les infos que vous pouvez trouver et vous n'oubliez pas de passer par la rubrique pétition et s'il y en a de nouvelles, vous les signez, même s'il y en a des anciennes et que vous n'avez pas encore signé d'ailleurs. Et bien sûr, vous pouvez nous écrire pour nous dire tout le bien ou tout le mal que vous pensez de cette émission, nous apporter des infos, nous demander des compléments d'information, de traiter un sujet particulier ou nous dire tout ce que vous voulez. Et pour ce faire, eh bien, privilégiez plutôt le mail à resf.fpp@gmail.com, je répète, resf.fpp@gmail.com, plutôt que la poste, mais c'est toujours possible, à émission RESF, Radio Fréquence Paris Pluriel, rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Mais si vous le faites par la poste, eh bien, on risquera de n'avoir le courrier que le 13 mai, soit le premier mercredi après le possible déconfinement. Et puis, eh bien, sur FPP, on n'a jamais fait de publicité, on n'en fera jamais, donc on n'a pas besoin de nos annonceurs et ça supprime un problème. Mais si on n'a pas besoin de nos annonceurs, pour vivre, on a besoin de nos auditeurs. Donc vous pouvez nous envoyer un petit ou un gros chèque qui sera libellé à Association Paris, P-A-R-I-S, pour Programme Associatif Radiophonique d'Intérêt Social. Ou alors vous pouvez, depuis le site de la radio, www.rfpp.net, eh bien cliquer sur l'onglet « Faire un don ». Alors, c'est notre cinquième émission confinée, encore une fois, du fait maison. Alors, c'est quand même plus pratique et plus agréable de la faire à la radio, en studio et en direct, avec le regard complice de Maya, Dominique et Marie-Jeanne, qui se relaient chaque semaine à la réalisation de cette émission. Et bien, on ne s'est pas vu depuis un mois et ça risque de continuer encore pour un autre mois. Et j'en profite pour faire un grand merci à Lucien qui est permanent de la radio et qui confine sur place 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui assure évidemment le suivi d'antenne et tout ce qui doit être fait sur place à la radio. Alors aujourd'hui, je ne vais pas me lancer dans une grande réflexion genre dissertation de philo sur la notion d'unité nationale, mais il y a quand même des choses qui me laissent perplexe. Quels peuvent être le sens de ces mots quand ceux qui les prononcent et appellent à sa réalisation excluent de fait une partie de la population et tentent de faire croire le contraire à l'autre partie de la population. Enfin bref, beaucoup de ceux qui voudraient confiner ne le peuvent pas et sont maintenus soit à la rue, dans les camps ou les bidonvilles, plus ou moins invivables, et sont punis d'amendes impayables puisqu'ils ne confinent pas alors qu'ils voudraient confiner et qu'on le leur interdit. Et ça, on l'a suffisamment développé donc lors de nos émissions précédentes et on continuera celle-ci. Alors si l'unité nationale passe par l'hygiène, pourquoi couper l'eau qui approvisionne les camps, les squats et les bidonvilles. Pourquoi continuer à imposer une promiscuité en rétention dont l'effet que l'on sait inéluctable est la contamination, aujourd'hui avérée des retenues, de la police et d'autres personnes qui travaillent, mais qui n'y sont plus beaucoup, dans les centres de rétention. Alors, il y a une idée qui fait son chemin, hein. Au Portugal, c'est la régularisation provisoire des personnes qui sont en cours de procédure de régularisation. Mais cette régularisation n'est que provisoire et ne considère que seules les personnes qui sont en procédure de régularisation. Alors, dimanche 12 avril, 104 parlementaires ont signé une tribune dans le journal du dimanche pour demander la régularisation des sans-papiers en pleine crise de coronavirus. Mais là aussi, encore une fois, une régularisation qui ne sera que provisoire le temps de la crise. Alors, toujours en s'inspirant du Portugal, en Portugal, ce sont 41 associations et plus de 100 citoyens qui demandent la libération des migrants et la fermeture des centres de rétention. On reparlera peut-être du Portugal d'ailleurs, mais bon. Et toujours est-il qu'en France, on est obligé de faire appel à l'ONU. C'était jeudi 9 avril, à propos du Covid-19 et des personnes vivant à la rue, dans les squats ou les bidonvilles. Et ce sont 92 associations et collectifs qui s'associent pour saisir conjointement sept rapporteurs des Nations Unies en charge des questions de pauvreté extrême, de santé, d'accès à un logement décent, à la nourriture, à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que des migrants et des défenseurs des droits humains. Cette action est à l'initiative du Committee for Refugees Relief et elle est coordonnée par des associations telles que Amnesty International France, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et Utopia 56. Cette saisine fait état que les personnes vivant à la rue, dans les squats ou des bidonvilles, ne bénéficient pas pleinement des mesures de prévention du Covid-19 mises en place par le gouvernement et les autorités locales. Elle fait part de la situation préoccupante de cette catégorie de personnes dans plusieurs villes de France, dans la mesure où leur accès à l'eau et à la nourriture, rendu plus difficile en raison de la pandémie, impacte potentiellement leur santé. Elle mentionne aussi le fait que les personnes en situation de demande d'asile sont aujourd'hui dans l'impossibilité concrète de déposer leur demande et donc d'accéder à une quelconque protection juridique, santé, nourriture, logement, etc. Enfin, elle mentionne la difficulté accrue des associations à travailler sur le terrain en raison de l'absence de matériel et de protection et dans certaines municipalités de verbalisations excessives. Cette communication urgente demande aux rapporteurs spéciaux de rappeler au gouvernement français la nécessité de prendre et réaliser effectivement des mesures de protection à l'égard de ces personnes, et cela dans l'intérêt de tous. Alors on pourra retrouver plus d'informations sur cette saisine, en particulier sur le site du GISTI, http://www.gisti.org, où elle figure à la une. Aujourd'hui, il sera bien évidemment question de la rétention, des centres de rétention administrative, des révoltes des retenus au Mesnil-Amelot, à Vincennes et à Oissel, avec deux entretiens téléphoniques avec des retenus en lutte, réalisés par téléphone depuis le CRA de Oissel, à côté de Rouen, et qui m'ont été communiqués par Paul. L'un a été enregistré dimanche 12 et l'autre vendredi 10. Puis on retrouvera Daniel Gros, enregistré par téléphone depuis Mayotte, et qui nous fera une description assez catastrophique de ce qui se passe dans ce 101e département français. Et puisqu'on parlait d'unité nationale, il faut rappeler que la France est supposée être une et indivisible. Donc tout de suite, on retrouve Paul, puis deux retenues. Donc Paul a été enregistré mardi après-midi. Et les retenues, donc je rappelle, ont été enregistrées l'un dimanche soir et l'autre vendredi. Bonjour Paul, tu participes à une assemblée ouverte de lutte contre les CRA, les centres de rétention, et d'ailleurs bien qu'en ce moment c'est plutôt difficile d'être ouvert à tous avec le confinement. Alors collectivement, vous recueillez entre autres des témoignages des personnes enfermées, retenues ou prisonniers, témoignages qui sont régulièrement diffusés sur FPP et sur le blog Abalekra, donc pour y aller c'est https://abalekra.noblog.org. Et on va nous parler de la situation en ce moment des CRA, des centres de rétention administratifs, prison pour étrangers, parce que ça se passe très, 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 très mal.
Ouais. En fait, depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, les prisonniers demandent à être libérés et se sont mobilisés avec des grèves de la faim, avec des mouvements de résistance. Et en fait, la rétention est même plus légitime selon les critères de l'État parce que les déportations sont plus possibles, il n'y a plus d'avions. Mais l'État a décidé de continuer à enfermer et aucune mesure sanitaire sérieuse a été prise pour éviter la propagation du virus à l'intérieur des CRA, alors que les flics rentrent et sortent tous les jours, donc il y a beaucoup de risques. Donc l'État sait très bien qu'il fait courir un risque énorme aux prisonniers, qu'ils pourraient en mourir, mais il continue à les laisser crever dans ses prisons et on pense que la seule solution, c'est la liberté pour tous. Et donc ce week-end, il y a eu des révoltes dans plusieurs CRA, donc je vais en parler un peu. Déjà au CRA du Ménil-Amelot qui se trouve près de l'aéroport de Roissy, samedi 11, au matin, il y a des flics qui ont libéré un prisonnier qui était malade et qui avait passé 2 jours à l'isolement. Et dans l'après-midi, il y a des prisonniers qui ont organisé une assemblée pour organiser la résistance et qui ont décidé de bloquer la cour de promenade en criant « Liberté, liberté ». Donc le soir, de l'administration du CRA et des gradés de la police ont essayé de discuter avec eux pour les convaincre de remonter sans rien obtenir. Mais les prisonniers ont décidé de rester la nuit dehors en protestation. Et le dimanche 12, au matin, la majorité des prisonniers ont décidé d'essayer de passer par-dessus des barrières pour rentrer dans le bâtiment où sont enfermés les prisonnières et les familles. Et donc là, les CRS sont intervenus en masse, à peu près une centaine d'après ce qu'on nous a dit. On tabassait des gens, on confisquait des portables et on forçait tout le monde à rentrer dans leurs cellules, sauf 8 prisonniers qui ont été transférés, 5 qui ont été transférés au CRA de Lesquin près de Lille et 3 qui ont été transférés au CRA de Oissel près de Rouen. Donc voilà, ça c'est un peu la situation au Ménil-Amelot. Il y a aussi eu des révoltes au CRA de Vincennes. Donc c'est en fait à Vincennes, depuis le jeudi 9 avril, il y a des cas de coronavirus qui ont été confirmés. Donc les prisonniers ont peur et sont en colère parce que ça fait longtemps qu'ils demandent des mesures sanitaires sérieuses contre ça et qu'ils demandent la liberté. Et donc dimanche 12 au matin, il y a eu un départ de feu dans une cellule, ce qui fait qu'une personne a été mise à l'isolement et 2 personnes ont été emmenées en garde à vue. Heureusement, depuis, elles sont toutes les deux sorties sans poursuite. Et en fait, le dimanche soir, il y avait un troisième retenu malade qui était très mal en point. Et donc, les flics ont refusé en fait d'appeler une ambulance. Donc, les retenus ont bloqué la cour de promenade pour exiger qu'ils soient pris en charge. Ça a été assez tendu et finalement, vers minuit, la police a appelé une ambulance et la personne malade a pu être emmenée en dehors du CRA. Et donc, ça fait longtemps que les prisonniers de Vincennes savent très bien le risque qu'ils encourent. Et même les infirmiers leur ont dit des phrases comme « Vous êtes tous contaminés déjà ». Mais en fait, il a fallu attendre qu'il y ait plusieurs cas confirmés pour que l'administration se décide à leur donner des masques. Donc, bien trop tard quand tout le monde était potentiellement déjà contaminé. Ensuite, il y a aussi eu des mouvements de résistance au CRA de Oissel. C'est le dimanche 12, donc les prisonniers ont lancé une grève de la faim pour exiger leur libération. Et les 3 prisonniers qui ont été transférés du CRA du Ménil-Amelot qui sont arrivés ont rejoint cette lutte dès qu'ils sont arrivés. Mais pour l'instant, ils n'ont pas obtenu de réponse de la part de l'administration. Et donc ensuite, tout à l'heure, on va vous passer deux témoignages qui viennent justement du CRA de Oissel. Voilà, donc il ne faut pas laisser les prisonniers seuls, il faut relayer leurs paroles et lutter de notre côté. Donc nous, dans notre assemblée de lutte contre les CRA, on propose déjà tous les soirs à 20h, en plus d'applaudir, de crier pour la libération des sans-papiers, d'accrocher des banderoles pour exiger la fin des CRA et de l'enfermement et pour la libération. On propose aussi d'harceler par mail les préfectures pour leur montrer qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur et pour essayer de ralentir leur travail. Et donc pour ça, on a fait un appel qui est disponible sur le blog abalekra.noblog.org. Et puis pour sur ce même blog, vous pouvez trouver des témoignages de l'intérieur et vous tenir informé sur la situation des CRA. Et pour ça, il y a aussi l'émission quotidienne de l'Envolée qui donne des informations sur les prisons et sur les centres de rétention.
Ouais, c'est tous les jours. Donc quotidienne, c'est tous les jours sur FPP 106.3 à 19h, hein, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Et puis tous les vendredis, du coup, il y a une émission de l'Envolée qui est plus longue et avec toujours des informations sur les centres de rétention et plus particulièrement une fois par mois. C'est le dernier vendredi du mois, je crois. Une émission consacrée au centre de rétention en particulier. Voilà.
Voilà, ben merci beaucoup. Et puis donc, il faut suivre ce qui se passe dans les CRA de très très près, parce que c'est, comme on dit, pour connaître la hauteur d'un éléphant, il faut passer sous son ventre. Et là, on passe vraiment sous le ventre de l'éléphant.
Ouais.
Tu peux nous dire un petit mot sur les conditions dans lesquelles ont été enregistrés les deux témoignages que tu nous envoies?
Alors, c'est pas moi qui les ai enregistrés, mais c'est des copains qui ont appelé en fait les prisonniers du CRA de Oisel. Et c'est possible de trouver des contacts à l'intérieur des CRA en appelant les numéros des cabines de téléphone, parce qu'il y a des cabines dans certains CRA. Ces numéros, ils peuvent être trouvés sur Internet. Ils sont notamment disponibles sur le blog Abat les CRA. Et ensuite, c'est possible donc de rentrer en contact avec les prisonniers comme ça.
Voilà, et ça permet en plus de témoigner sa solidarité, de faire sortir des paroles. Et si on enregistre, je crois qu'il faut prendre quelques précautions avant d'enregistrer et avant de mettre en ligne surtout.
C'est plus prudent d'anonymiser les témoignages et les communiqués qui sortent par les prisonniers parce que les policiers écoutent aussi ce qui se dit à l'extérieur, ce qui sort notamment dans l'émission de radio et sur le blog, et donc pour protéger un peu les prisonniers, c'est mieux d'anonymiser les témoignages.
Évidemment.
Voilà.
Voilà, et ben merci beaucoup, et puis on va tout de suite écouter les témoignages que tu nous envoies.
Ouais, ben merci beaucoup à vous. Au revoir.
Au revoir Paul, et on va tout de suite écouter les deux témoignages enregistrés depuis le centre de rétention de Oisel. Le premier a été dimanche dernier, dimanche 10 avril, et le second a été enregistré vendredi 10.
Nous on est arrivé hier soir, ici seulement, nous on était en Mélidamno, si vous connaissez bien, voilà. Bon, ici, pour le moment, moi, je connais pas grand chose. Il faut que j'appelle quelqu'un qui vous fasse le compte rendu à partir d'ici, quoi. Bon, quand même, on est venu, on a trouvé aussi, ils sont en grade défunt. Mais nous aussi, on continue avec eux.
Normal.
Bon, je vous appelle quelqu'un, il va vous faire un compte rendu, ce qui s'est passé ici. Sinon, nous, Miriam, nous, on avait commencé ça. Ça a coûté ça, on nous a transféré ici.
Et ça va, le transfert, ça n'a pas été trop violent?
Oui, ça a été très, très violent, parce que nous, on a réclamé notre droit à Miriam, nous, ils ont refusé. Parce que là, les toilettes, les douches, ils sont bouchés, complètement bouchés. Et puis, on n'a pas les gels hydres. Parce que c'est ici, quand je suis venu ici, j'ai vu les gels quand même. Les gels hydres, on n'avait pas ça. On n'avait pas ça à Milan. On a réclamé plusieurs fois. Ils refusent. Et puis, ils ont mis les gens plus de 50 et quelques personnes. Et ce qui n'est pas normal en ce moment. Et ce qui révoltait tout le monde là-bas, c'est un rapport à un SDF qui est rentré. Il a fait une semaine, il est parti. Il avait la fièvre de 39 degrés, et puis directement, ils ont niqué, je sais pas, ils ont détecté quelque chose directement, ils l'ont fait sortir. Pour ne pas qu'il les fasse que ce qu'il a, ils l'ont fait sortir directement. Et ça a révolté la couleur de tout le monde. On a décidé maintenant de faire une crève de faim et de faire la grève. Et puis nous, on a grévé deux jours, on était dehors, dans la cour. Personne ne rentrait dans la cellule. Tout le monde était dehors dans la cour. Et puis le lendemain, la nuit, le directeur est venu, il a parlé avec nous, ils vont trouver la solution. Le lendemain, ils ont appelé trois patrouilles de CRS qui sont venues nous encercler maintenant. Ils ont bastonné les gens, ils ont lancé les gaz comme lacrymogène. Et puis nous, moi je fais porte-parole avec d'autres personnes au nombre de 7. Ils nous ont mis les minotes et puis on a mis en isolement. Et puis vers 14h30, les escortes sont venues, ils ont mis les masques sous la bouche de certaines personnes. Ils ont mis les cordes, ils ont attaché comme des chiens pour nous faire rentrer dans la voiture. Donc on est arrivé ici maintenant et puis c'est comme ça. Et puis les autres sont restés ils ont informé les autres dans la cellule là-bas. On a appelé les autres, ils disent qu'ils sont là-bas.
Ok. Et on a eu des nouvelles aussi des gars là qui ont été enfermés à Lille.
Ouais. D'accord. Parce que ici, nous, là-bas, on était suivis par la CIMADE aussi, que la CIMADE, et puis il y a d'autres.
Ouais, ici, c'est transfert d'asile.
Oh, oui. Non, non, nous, c'est là-bas, c'est la CIMADE.
Ouais.
Ici, c'est transfert d'asile, ils m'ont dit.
Exactement.
Voilà.
C'est ça. Ok. T'essaies de me passer un gars qui est là depuis plus longtemps?
Bonjour, Alex. Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, ça va pas. Nous, on a fait la grève. La grève du pain.
Yes. Donc, toi, t'es prisonnier à Wassel?
Ouais, à Wassel, ouais.
Là, vous êtes en grève de la faim depuis quand?
Depuis hier soir.
Ok. Et vous êtes mis en grève de la faim, pourquoi?
Bah, pour qu'ils nous libèrent.
Ok. Et vous êtes combien en grève de la faim?
On est tous en grève de la faim, tous. On est à 11 ou 12, 13 personnes. 16 personnes.
Ah, avec les 3 arrivées de Ménil, ça fait 16.
Ouais, ça fait 16, ouais. Hmm?
Les flics, ils ont réagi comment?
Bah, ils ont dit, vous mangez pas, ils ont rien dit, hein. Ils ont mal compris, mais c'est pas...
Ok, ils ont pas été violents?
Non.
Et du coup, vous avez pu parler au commandant ou à quelqu'un, là, pour exiger votre libération?
Non, on n'a pas parlé avec le chef. Pour l'instant, il n'y a pas de chef. On n'a pas parlé. Ce matin, ils ont ouvert le passé au camp par hasard. Ils ont dit, c'est lui qui veut sortir au patio. Ben, dans 10 minutes, ils ont fermé.
Le patio, c'est la promenade?
Ouais, c'est la promenade, la grande promenade, quoi.
Ouais, ça, parce qu'à Wassel, il y a une petite promenade et une grande promenade, et la grande promenade, elle est fermée, en fait, généralement.
Ils l'ont ouvert aujourd'hui, okay. Ce matin.
Ouais, pour vous calmer, les bars.
Ouais.
Là, vous avez décidé de faire quoi? Est-ce que déjà, moi j'ai une question, parce qu'à Wassel, il y a plusieurs personnes qui étaient malades. Est-ce que les gens vont mieux?
Ouais, ça va mieux, pour l'instant, ça va mieux.
Ok. Même le gars qui dormait dans la promenade?
Ouais. Non, on va continuer la grève du pain jusqu'au bout, hein, ils ont dit.
Ouais, Alex.
Yes.
Du coup, bah, ouais. Bah, en fait, ici, voilà, ça va pas du tout. Voilà, il y a une personne qui est handicapée de bras, il devait faire son vaccin pour l'hépatite hier. L'hépatite D, ils lui ont pas fait. Ici, franchement, dans la cour de promenade, c'est hyper crade. Vous pouvez demander même aux policiers. C'est nous qu'on nettoie les chambres, ils sont hyper sales. Même là où on est hyper crade, on n'a pas de gants, on n'a pas de masque. On demande tout simplement d'avoir des masques, des gants. Ils nous disent que voilà, eux, ils sont pas là pour nous donner ça. On n'a pas d'habits. On n'a pas de chaussettes. Ma famille, ils sont à 400 km. Ils peuvent pas venir me ramener des habits. Ma mère, elle est hyper grave malade. Elle a le cancer des poumons. Mon père aussi, il est hyper grave malade. Moi, j'ai pas envie de faire une bêtise. Si quelque chose y arrive à ma mère le temps que je suis ici, sincèrement, je veux dire la vérité, je me prends en policier. Je vais pas, voilà. Il y en a un qui dit aujourd'hui, si le juge ne nous laisse pas sortir, rentrer voir sa famille, parce que sa famille est hyper malade, bah, il va se suicider, quoi. Donc, du coup, en fait, je comprends pas, en fait. Si nous, on se prend, parce qu'en fait, ici, dans les chambres, on n'a pas de caméra, tu vois. On a des draps, on a des possibilités, on rentre dans notre chambre, on se prend. Qui garantit pour nous? Qui garantit pour notre sécurité, pour notre vie? Ils ont rien à foutre ici, en fait. Que le seul truc que je peux dire, c'est que voilà, si les gens de dehors, ils pourraient nous aider pour pouvoir sortir d'ici, rentrer et rester enfermé. Voilà. Et la personne qui est à côté de moi, il m'a dit, il est parti voir les policiers pour les demander, monsieur, je dois faire mon vaccin. Et voir le médecin, ils lui ont dit, il n'y a pas de médecin, il n'y a rien du tout, ils ont fermé la porte et lui, il devait faire son vaccin hier. En fait, nous, on a hyper peur parce que, voilà, s'ils n'ont pas fait son vaccin, ben, si on fume après un lot, 4 personnes sur une roulée, tu vois, c'est difficile parce qu'on ne peut pas savoir. Donc, en fait, nous, on est en train de se tuer, nous, entre nous ici. Ça va pas du tout ici dans le centre, ça va pas. C'est sale, c'est pas propre, il y a pas de femme de ménage qui lave notre chambre, il fait hyper froid, j'en sais pas, ça nous va pas du tout. Là, pour l'instant, on essaie de garder un petit peu le moral, on essaie de monter le moral un contre l'autre, mais on peut pas savoir ce que l'autre il fait quand il rentre dans sa chambre, quoi. Ben, celui qui est à côté de moi, il s'est vraiment gravement coupé hier, avec un bout de miroir. Imaginez-vous qu'on prend un bout de miroir, là, pour l'instant, ça va, mais imaginez-nous que si notre maman, il lui arrive quelque chose, ben, vous imaginez qu'ici, avec les policiers, ça ne va pas aller. Ça ne va pas se passer bien. Les gens, ils vont se prendre aux policiers si quelque chose y arrive à leur maman. Donc, moi, ce que je souhaite, c'est sortir d'ici le plus vite possible pour pouvoir aller rester avec ma maman, rester enfermée, parce que ma maman, elle est hyper grave malade. J'ai une adresse, J'ai une petite fille, je suis marié avec une Française, j'ai une attestation d'hébergement, j'ai un domicile, j'ai une adresse, j'ai tout ce qu'il faut. Je comprends pas pourquoi ils me gardent ici alors qu'on n'a pas de vol. On n'a rien du tout, je comprends plus rien, moi, en fait, c'est cause délire. Mais bon.
Ouais, puis tu racontais que dehors, là, ils parlent de confinement, etc. Mais toi, par contre, ils t'ont fait un transfert, là, il y a quelques jours, non?
Ils m'ont transféré samedi de là-bas parce qu'ils ont vu que ma famille, ils voulaient venir pour me ramener, tu vois, des habits, des chaussettes, des boxeurs. Et tout ça, c'est juste incroyable, ça. Je comprends plus rien, en fait, dans l'histoire, moi, ce qui se passe. Parce que là, ici, il y en a un, en fait, qui sont hyper mal. Quand il respire, il a mal à l'intérieur de lui. Sa maman aussi, elle est hyper blessée, elle est malade. Ça fait 3 ans de prison qu'il a fait. Là, il est sorti de prison. Il a envie de rester avec sa famille, quoi. Il a envie de profiter, voir sa maman. Il est enfermé ici. En plus de ça, ils lui ont rajouté 60 jours. Donc, vous imaginez comment on est dans nos têtes. Ouais, tous les jours, en fait, on parle, tous les jours, on explique aux gens. Mais ce qu'on voit, il n'y a personne qu'on peut rien y faire, tu vois. Je sais que vous faites tout possible pour nous aider, mais c'est l'État, en fait, c'est l'État, le président. Si quelque chose nous arrive, est-ce que si moi, je dis juste ça, si quelque chose y arrive à ma maman, est-ce que le président serait capable de me payer ça? Est-ce que le président de la France serait capable, ou je sais pas, la personne là qui décide, de renfermer les crabes ou pas? Et est-ce que je serais capable de me rendre ma maman si quelque chose y arrive? Moi, je serais capable de faire n'importe quoi si quelque chose arrive à ma maman. Okay. J'ai pas de téléphone, j'ai rien, j'ai pas de club, j'ai rien du tout. Ici, c'est les gens qui me font fumer. On fume 4 personnes sur une cigarette, quoi. On mange mal, on dort mal, il fait hyper froid. On n'a pas de couverture, on a une couverture sur une personne. Il fait hyper froid ici. Les journalistes, ils savent comment c'est ici. Ils sont venus, ils ont filmé la promenade. Ils ont filmé les chambres, ils ont mis sur Internet et malgré ça, ils veulent pas fermer le crabe. Pour quelle raison? Ça veut dire qu'ils veulent tuer les gens comme à l'abattoir ou quoi? Vous donnez quoi? On est des cochons, on est des chevaux, on est des moutons. Je comprends pas en fait ce qu'on est. On a simplement une raison d'être avec notre famille. On a compris. Si on a une chance de sortir d'ici, on doit être enfermé et rester avec notre famille.
Et ça se passe comment avec les juges du coup?
Moi, je comprends pas. Là, j'ai fait une demande de mise en liberté. Pour l'instant, on sait pas. Il y a aussi un ami qui l'est ici. Tout le monde, il attend. Mais en fait, là, les gens, c'est pas question. Je veux dire la vérité. Les juges, ils ont rien à foutre, quoi. Les juges et les procureurs, ils ont rien à foutre de notre gueule, en fait, qu'ici, on est maltraité. Si on commence à devenir agressif ou comme ça, ils nous prennent une place dans un isolement où on n'a pas le droit de voir médecin. On n'a pas le droit de voir personne pendant 48 heures, 68 heures. Ça veut dire quoi, ça, monsieur? On n'est pas des chiens. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide et merci beaucoup pour tout ce que vous essayez de faire pour nous soulager, pour essayer de nous aider pour pouvoir sortir d'ici, quoi.
Beaucoup de force à vous, hein. Okay.
Ouais, merci on beaucoup. Toi aussi, bon courage à toi et merci beaucoup.
Vous êtes toujours à l'écoute du RSS sur fréquence Paris Pluriel 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfp.net. Partout et partout dans le monde, à condition de bénéficier d'une connexion. On écoutait Paul enregistré mardi matin et deux prisonniers du centre de rétention administrative de Wassel, dont on préservera bien sûr l'anonymat. Le premier, un des porte-parole des retenus en lieu du Ménilamlo et qui a donc été transféré là-bas à Wassel, enregistré dimanche 12, et le second, retenu en lutte en grève de la faim, également de Wassel, qui lui a été enregistré vendredi 10. Et avant de continuer et de retrouver Daniel Gros, enregistré mardi matin depuis Mayotte, eh bien, une petite pause musicale avec HK et les Saltimbanques, ta récompense.
Quelquefois dans la vie, y a pas de choix. Mais jamais tu dis, je n'ai marre de la vie. Toujours il y a espoir pour faire quelque chose. C'est comme ça, mon ami. C'est comme ça. C'est comme
t'as
ça.
T'as pas choisi tes parents, t'as pas choisi ta famille. T'as pas choisi de vivre ici, dans le désert de l'oubli. T'as pas choisi ce continent. Pour toi, c'était pas gagné qu'un jour petit deviendrait grand, mais tu l'as passé le cap de l'enfance. T'as survécu à mille et une souffrances. T'es en sursis, mais tu cours plus vite que les balles. T'as décidé de t'en aller pour fuir la peine capitale. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en auras pas deux, t'en auras pas dix.
t'en auras pas 20. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. Vous êtes parti à 15, mais seuls les plus forts ont survécu, vous n'étiez que trois. Arrivés à bon port, certains dans un radeau, d'autres à la nage, d'autres comme toi dans un avion calé dans le train d'atterrissage. Et là-haut, dans le ciel, à moins 50 degrés, tout près de rejoindre l'éternel. J'aimerais savoir à quoi t'as bien pu penser pour échapper à madame la mort une fois de plus qui t'attendait. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en auras pas deux, t'en auras pas dix, t'en auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. T'es arrivé, t'as échappé à l'enfer. Ici, c'est pas le paradis, mais bon, t'en as rien à faire. Y'a plein de femmes et d'hommes comme toi, venus d'ailleurs, qui pensent qu'on a tous le droit ici-bas à notre part de bonheur. Mais votre présence fait pas plaisir à tout le monde. Disent qu'ils peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Y'a pas à manger pour tous, alors faut partir. Moi je me gave, mais toi va-t'en mourir. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en auras pas deux, t'en auras pas dix, t'en auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. Désormais tel un criminel, tu rases les murs pour échapper aux sentinelles. Ils sont à ta recherche nuit et jour. Tu sais qu'ils ont déjà préparé ton billet retour. Ta punition, elle sera au bout du chemin. Retour à la case départ vers ton continent lointain. Une fois là-bas t'auras pas le choix, tu repartiras mort pour mort, autant tenter ta chance et tu la tenteras. Ta récompense est au bout du chemin. T'en auras pas deux, t'en auras pas dix, t'en auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois foncer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. Ta récompense est au bout du chemin. T'en auras pas deux, t'en auras pas dix, t'en auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain.
Toujours à l'écoute du RESF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris Branche Banlieue, www.rfpp.net partout. Et on vient d'écouter Ta Récompense avec HK et les Saltimbanques. On va tout de suite retrouver Daniel Gross, enregistré mardi depuis Mayotte. Bonjour Daniel, Daniel Gros, tu nous appelles de Mayotte et tu vas nous expliquer ce qui se passe là-bas parce que les choses sont un petit peu comme en métropole, mais avec des, en même temps beaucoup plus graves, j'ai l'impression.
Oui, bonjour. Alors, effectivement, à Mayotte, nous entrons comme tout le monde dans le deuxième mois de confinement. Alors, à Mayotte, nous sommes une population de 270 000 habitants. Hein, c'est pour un département, un petit département, enfin, c'est un département, Mayotte. c'est un département qui a aussi une île. Donc une île, elle n'est pas extensible. Et puis, c'est une petite île. Et 270 000 habitants, c'est un taux de densité relativement important. Hein. C'est le plus important de France après l'île de France.
Ouais.
Mais bon, alors... En fait, le problème, c'est le taux de pauvreté. Alors, à Mayotte, il y a un taux de pauvreté considérable, 85% de la population est sous le seuil de pauvreté, qui est à 900 euros. Et je vais décrire un petit peu la situation de Mayotte à partir du rapport du défenseur des droits qui est paru en février 2020 après une visite de l'équipe du défenseur des droits qui a eu lieu en novembre, si je me souviens bien. Bon, mais ce rapport est un vrai réquisitoire. Hein. J'ai l'impression que j'aurais pu l'écrire. Bon, voilà. Donc, c'est très étrange. C'est-à-dire qu'on ne trouve que des points d'accord. Donc, ça fait relativement plaisir. Ça veut dire qu'on n'est pas des éliminés, hein, qu'on se bat contre les injustices. Et le rapport s'appelle « Établir Mayotte dans ses droits ». Alors, établir Mayotte dans ses droits, ça ne veut pas dire rétablir, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de droit, alors que c'est un département français, c'est-à-dire que les droits de métropole ne sont pas appliqués à Mayotte. Mmh. Et ce document, ce rapport, tout le monde peut y accéder, il suffit d'aller sur le site du défenseur des droits et de demander le rapport de Mayotte. Je crois qu'il est en ligne immédiat, il est facilement de le trouver sans chercher. Alors, il y a le premier point sur la santé dont je vais parler, hein, de ce rapport, hein, donc parce que c'est important la santé en ce moment puisque c'est un problème médical. Hein. Je veux dire, en fait, l'épidémie est conçue comme un problème médical, mais c'est pas tout à fait. Enfin, pour moi, c'est pas suffisant. C'est un problème aussi social, anthropologique, économique, mais il est surtout traité au niveau médical avec des incidences économiques importantes. Mais donc, restant sur le domaine médical, le défenseur des droits note des carences structurelles très anciennes. Hein, insuffisance prise en charge des frais de santé. Il y a 1,6 lit pour 1000 habitants à Mayotte.
Mmh.
Alors, il y a 16 lits de réanimation hein, pour ce qui est de notre problème actuel.
Mmh.
Il n'y a pas d'aide médicale d'État.
Mmh.
Il n'y a pas de CMU. C'est-à-dire de couverture maladie universelle, complémentaire, ça n'existe pas.
Ouais.
Donc, les gens qui n'ont pas de sécurité sociale et pas de complémentaire, vu le taux de pauvreté, ils regardent à deux fois avant d'aller consulter ou se rendre à l'hôpital.
Mmh.
Alors, au niveau du niveau de vie, on va dire, bon, il y a le coût de la vie. Alors, si 85% de la population est sous le seuil de pauvreté, le coût de la vie, lui, est noté par le défenseur des droits, 42% supérieur à celui de métropole, c'est-à-dire moitié plus cher.
Mmh.
Donc ça aggrave considérablement le point de vue. Le taux de pauvreté, bon, je l'ai dit, le taux de chômage est de 35%. Mais taux de chômage par rapport aux personnes qui peuvent être recensées au chômage, hein, parce qu'il y a aussi des personnes un peu, on dit clandestins, mais quelqu'un qui a une carte de séjour d'un an, il l'a depuis 20 ans ici, hein, parce que il faut savoir le français hein, pour avoir une carte de séjour de 10 ans.
Mmh.
Et à Mayotte, on ne parle pas français.
Mmh.
Voilà, les gens, ils n'ont pas besoin du français pour vivre à Mayotte. Donc, il y a des contradictions terribles, mais comme il y a un département, c'est un département, donc c'est les lois du département, c'est les lois de la France, donc la langue, c'est le français.
Ouais.
Donc, les gens ne peuvent pas avoir une carte de séjour de plus d'un an, sauf exception et sauf les plus anciennes, là, ceux qui les ont depuis 10 ans, peuvent les renouveler. Mais ils ne savent pas le français. Ils ne sont pas capables de dire. Donc, maintenant, on ne peut plus. Et puis, il faut aussi un travail. Et comme un travail, il n'y en a pas. Donc, les gens, eh bien, ils ont leur carte de séjour d'un an. Ils ont des petits boulots, de rien du tout, très peu rémunérateurs. Mais surtout, entre deux cartes, ils peuvent perdre le droit à la sécurité sociale, le droit à l'emploi. Par exemple, entre deux cartes, on a récipitié, on est rayé des listes de Pôle emploi.
Okay.
Voilà, ça, c'est des petites choses qu'on sait, il faut vraiment être proche des gens pour le savoir. C'est pas si évident à déceler toutes ces petites choses-là, ces petites brimades. Alors, 35% des personnes qui sont quasiment repérables par l'administration, qui sont visibles, comme on dit, parce que le terme de visible, il commence à être bien employé là. Trois quarts des habitants de plus de 15 ans n'ont pas de diplôme. Ouais. C'est énorme.
Ouais.
Un tiers des adultes n'ont jamais été scolarisés.
Ouais.
Donc c'est vraiment inouï cette situation-là. Je veux dire, on peut pas l'imaginer. Hein, voilà, on peut pas l'imaginer. Alors il y a le problème, là, c'est le problème de la santé, l'emploi, tout ça. Il y a le problème de l'école.
Ouais.
Mais le problème de l'école. Les enfants pauvres, tout est fait pour que ces gosses n'aillent pas à l'école.
Mmh.
Mais vraiment, alors, ils essayent de viser les maires, les responsables politiques, ils essayent de viser les enfants d'immigrés. Parce que, les enfants d'immigrés, ils sont pauvres. Bon, c'est les enfants d'immigrés pauvres, hein, parce qu'il y a des Comoriens riches hein, aussi à Mayotte. Mais ceux-là, on ne voit pas la différence avec les autres Comoriens mahorais. Mmh. Hein, des Comoriens, dans Jouan, il y a quatre îles. Donc, des Comoriens, des quatre îles. Mmh. Mais les Mayotte renie son histoire comorienne pour devenir française. Donc, il y a un blackout total. Puis, il y a une forclusion, hein, comme on dit, qui est très importante et qui préside à la lutte contre l'immigration. Donc les enfants pauvres sont refusés quasiment, ils ne peuvent pas s'inscrire. Alors quand ils sont au bureau des assistants, on leur dit toi tu dégages, t'as pas ton papier, t'as pas une facture d'électricité à ton nom, tu dégages. Par exemple, hein, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a des milliers d'enfants qui ne sont pas scolarisés et qui devraient aller à l'école.
Ouais.
Donc ça, c'est très très grave en fait. Et le défenseur des droits le note bien, c'est-à-dire tout ce que je dis là, c'est bien précisé, c'est vraiment dit noir sur blanc dans ce rapport.
Ouais.
Il y a, par exemple, par rapport au, il y a aussi le problème des sans-papiers. Alors, il y a le problème des sans-papiers, des avec papiers, mais c'est la vie, c'est très complexe, c'est une histoire très complexe. Il n'y a pas il y a des dénis de droit de tout, de l'école, de sans-papiers, des étrangers. Comme les étrangers ont des droits. À Mayotte, non. N'importe qui. À Mayotte, il y a une lutte contre l'immigration productive. Et la ministre de l'Outre-mer c'est-à-dire son objectif, c'est renvoyer 30 000 sans-papiers, 30 000 étrangers. Par an. Vous vous rendez compte, 30 000 étrangers, c'est plus de 10% de la population totale de l'île. C'est-à-dire, quand on fait ce rapprochement-là, on ne comprend pas quelle est leur logique, comment on peut saigner une population de cette manière-là. Mais le problème, c'est que les gens, ils sont mariés entre eux, français, non-français. Il n'y a pas de problème d'existence dans la vie quotidienne. Il y a un problème politique, mais pas de problème de cohabitation.
Ouais.
Donc, c'est grave. Il y a des enfants français. Le papa, il s'est renvoyé parce qu'il n'est pas français. Et la maman, elle se retrouve sans rien parce qu'elle est française, mais elle n'a pas d'argent. C'est le papa qui gagne l'argent.
Mmh.
Voilà. Et il est arrivé qu'un enfant français soit renvoyé parce qu'il était franco-comorien, donc il peut bien partir avec son frère.
Ouais.
Non français. Voilà. Ouais. Bon. Il y a des choses. Bon, je vais arrêter là parce que c'est dramatique. Il faut savoir que le premier jour du confinement, le CRA, le centre de rétention administrative, a été fermé.
Ouais.
C'est le premier centre administratif qui a été fermé. Ce n'est pas générosité politique, hein, je ne vais quand même pas les remercier, parce que je ne suis pas là pour ça. Mais les frontières ont été fermées, donc il était impossible de renvoyer les Comores aux Comores.
Ouais.
Donc ils ont eu une OQTF et puis ils ont été remis. Dans la nature, comme on dit, et pour parler de nature, c'est vraiment la nature.
Mmh.
Alors, tout ça pour dire que la vie est très, très dure à Mayotte. Et comme il se fait ce confinement-là qu'on vient de reconduire aujourd'hui pour un mois, est vécu différemment selon le niveau social.
Merci.
Plus on est en haut de l'échelle de la société, plus c'est des vacances, si je vais me permettre. Hein.
Ouais.
Et en bas, c'est une souffrance terrible. C'est une souffrance terrible. Alors, il y a 150 000 personnes, 150 000 habitants à Mayotte qui vivent en dessous du revenu moyen qui est de 380 euros. Ouais. 380 euros, j'estime qu'on ne peut pas faire d'économie, donc ces gens-là, ils n'ont pas d'argent de côté. Ouais. Ça veut dire qu'il y a 150 000 personnes à Mayotte qui n'ont pas un sou de côté et qui dépendent de la charité chrétienne, musulmane, tout ce qu'on veut, mais absolument pas d'autres choses. Et ça n'existe plus, ce genre de choses. Alors, il y a des associations qui essayent de venir en aide, mais on est au-delà du dispositif, de la logistique d'une association pour 150 000 personnes. Mmh. Il y a 100 000 personnes qui vivent dans des habitations en tôle. Mmh. Un confinement est impraticable dans une habitation en tôle où il fait 40 degrés dessous. Mmh. Et sans nourriture, quand on est confiné, on a envie de manger tout le temps. Ouais. Tout le monde le sait, c'est une expérience que tout le monde vit là. On a envie de dormir tout le temps. C'est une lutte incessante si on est inoccupé.
Ouais.
Et le problème du confinement, c'est vraiment que c'est les gens qui sont en lisière des villages.
Ouais.
Et ces quartiers d'habitation qu'on appelle bidonville, mais je déteste ce terme, d'autant plus que si on veut parler de bidonville, avec un concept un petit peu précis, tout Mayotte est un bidonville. L'ensemble de Mayotte est un bidonville, avec quelques îlots de richesse. Mais c'est un gros bidonville, Mayotte. Il n'y a pas un bidonville spécifique, particulier, dans un lieu quelconque. Ces gens-là qui habitent dans ce qu'on appelle les bidonvilles, ils ne peuvent plus sortir parce que vous croyez qu'ils peuvent avoir une attestation facilement en leur vendant 1 euro ou 50 centimes dans un cyber qui reste ouvert uniquement, parce que les cyber sont ouverts uniquement pour la vente des attestations. Les gens, ils n'ont pas d'argent de toute façon. Donc, ils ne sortent plus. Les gens ne sortent plus du tout. Ils ne quittent plus leur quartier. Et ils vivent comme ça, dans une petite autarcie un peu de solidarité, de voisinage, mais comme plus personne n'a plus rien, ça devient une catastrophe. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que la préfecture a missionné les associations, disons, a essayé de recruter toutes les associations locales pour les distributions alimentaires sous l'égide des CCAS, des CCAS des mairies. Et comme les mairies, de toute façon, elles ont appris depuis des années à ne pas s'occuper, à délaisser les étrangers.
Ouais.
Je ne pense pas qu'ils vont être en plein à s'occuper d'eux de façon positive. Et il reste que dans ces quartiers, ils n'ont jamais vu la queue d'un chat, d'une association ou d'un paquet de riz. Donc ils sont tout seuls et ça commence. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je ne sais même pas si ça me fait peur, mais je suis dans une douleur permanente. Donc, c'est quelque chose de terrible à vivre. Je me dis, ce qui est très difficile, c'est que ce confinement, il n'est pas critiqué. Tout le monde en fait un consensus. Personne ne le critique. Enfin, si, il y a quand même des petites critiques par-ci, par-là, mais je veux dire, c'est consensuel. Alors, moi, je trouve quand même admirable que ça fait consensus, tout le monde est d'accord, tout le monde a peur. Même les gens dans les quartiers d'habitation en tôle, ils ont peur.
Mmh.
Hein? Et ils ne sortent pas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur aussi de la police, hein, qui n'est pas tendre. Mais tous ces gens, ils ont peur. Et l'État n'a pas la moindre bienveillance pour les petits, les gens qui ne sont rien, disait Macron. Hein, je crois qu'il a utilisé cette phrase une fois. Bon, ces gens qui ne sont rien, ils ne sont rien du tout, ils ne les voient pas. Il ne peut pas les voir, mais on leur envoie quand même la police et leur donner 65 euros, les emmerder tout le temps. Et ça, c'est révoltant. C'est-à-dire, s'il y a consensus, s'il y a bienveillance, il n'y a plus de flics pour contrôler, il y a à la limite une police pour conseiller, pour, bon, pour inviter, mais pour harceler comme ils font depuis des années, je veux dire, ce confinement, il ne sert qu'une chose pour moi, hein, c'est-à-dire j'en suis venu là, le confinement, il ne sert qu'à éviter, cette, enfin comment dire, le confinement, il me protège moi, voilà, moi, je préfère dire moi, il me protège moi, c'est-à-dire cette souffrance qu'on impose aux autres, c'est uniquement pour me protéger moi contre le virus. Mais je dis, ça n'a plus de sens à ce niveau-là. Je dis, 100 000 personnes ne peuvent pas souffrir simplement pour m'épargner moi, alors que je m'en fous complètement de ces personnes. Ces personnes, ils peuvent rester crevés de faim. Là, voilà ce que je veux dire. C'est quelque chose d'un petit peu irrationnel. Je suis désolé, mais il y a quelque chose comme ça qui se joue ici à Mayotte et probablement en métropole aussi. Hein, on méprise ces gens qui n'ont rien, qui vivent, même en métropole, je veux dire, toute une famille dans un petit logement, dans une tour, je suis désolé, c'est pas un confinement. Je veux dire, on ne peut considérer ça qu'avec bienveillance, ou alors on a décidé que la France n'était plus une communauté. Voilà. C'est-à-dire que c'est une punition pour les pauvres, une punition supplémentaire, le confinement, simplement pour me protéger moi, j'ai pas besoin de ça pour me protéger si je veux. Hein. Voilà. Pour info, pour terminer, là, dimanche, je suis allé dans un quartier, dans un quartier de cases. On l'a délimité parce que les quartiers ont des noms. Alors, j'ai demandé, je voulais voir tous les habitants de du quartier qui avait un nom. Ouais. Je vais le nommer, bon, je ne vais pas le dire ici, ça n'a pas d'intérêt, mais un nom. Alors, il y avait 37 familles.
Ouais. Hein,
37 familles. 155 enfants.
Ouais.
Il y avait 20 mères enceintes.
Ouais.
Là, des familles dont les papas ont été renvoyés au coma, arrêtés, renvoyés, donc familles déstructurées, hein, complètement, au niveau des revenus, parce que c'est tellement fragile que les revenus, une personne qui est renvoyée, comme ça, parce qu'il faut savoir qu'on est renvoyé, on est arrêté là par la police. Alors, la police, elle arrête tout le monde, hein, parce que tout le monde est noir ici, sauf moi. Alors, elle m'arrête pas, moi. Mmh. Mais elle arrête tout le monde, elle contrôle les papiers de tout le monde. Ceux qui n'ont pas de papiers, ils vont au centre de rétention. S'ils peuvent pas se défendre, et encore, on leur permet pas beaucoup, mais prouver que soit ils sont français, soit ils ont une situation régulière, soit ils ont des droits à rester ici, eh ben, ils sont renvoyés dans les 12 ou 24 heures.
Mmh.
Mais pas plus. Donc, ils ne peuvent pas se défendre. Voilà. Tout ça est considérable. Alors, le virus, dans une situation pareille, s'il commence, s'il atteint les quartiers pauvres comme ça,
ouais.
Hein, parce que vont devenir ces petits... Enfin, quand je dis les femmes enceintes, là, c'est une catastrophe, parce qu'en fait, il y a un bébé qui se développe en elles. Hein, ouais. C'est-à-dire, et si elles n'ont pas à manger, qu'est-ce qui va se passer? Mmh. Mais on s'en fout. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Ils sont invisibles, ces gens-là. Voilà, ils sont invisibles. Comme on dit. On les voit pas, mais on ne les voit pas parce qu'on ferme les yeux, hein. C'est pas parce qu'ils n'existent pas. Alors, tout ça est, est très désolant. Et, voilà. Alors, on va se battre. Enfin, je veux dire, toujours dire.
Et on peut continuer à suivre, hein, parce que tu tiens un blog qui est passionnant sur Mediapart. Donc, qui s'appelle Mayotte, c'est loin, j'y habite, et où on, tout ce que tu nous dis là, on peut le suivre de façon très détaillée.
Voilà, et j'essaye d'être assez régulier en ce moment, parce que les choses qui se passent ici sont terribles, elles ont besoin d'être analysées, dites, et c'est quand même un gros travail, parce que ça m'oblige aussi à aller voir les gens. Mmh. Voir ce qui se passe. Je ne peux pas faire ça de chez moi, quoi. Hein. Voilà. Il faut que je sois toujours dans le réel. Donc voilà, j'essaye tous les jours de... Et en ce moment, je suis sur une série de témoignages où les gens parlent et je publie leurs témoignages.
Voilà, des témoignages qui sont vraiment, vraiment à lire et j'espère bientôt à écouter.
Merci.
Peut-être tu as des choses à ajouter, Daniel ?
Oh, je ne sais pas, je pourrais parler pendant des heures parce que il y a un moment où le silence est nécessaire. Merci. Et bonne journée.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel. Bonne journée. Et puis, prends soin de toi, ce que tu fais, et des tiens et des gens qui t'entourent.
La même chose pour toi. On est tous dans le même bateau. Là.
Très, très bientôt, Daniel. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Vous êtes toujours à l'écoute du RSF sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net, partout ailleurs. On vient d'écouter Daniel Gros, enregistré hier matin depuis Mayotte. Notre émission est à présent presque terminée, il va être temps de retrouver les oreilles loin du front. Alors pas vraiment d'agenda aujourd'hui pour cause de confinement, mais tous les soirs à 8h, on peut applaudir et crier nos slogans pour la libération des retenus et la fermeture des CRAS, et mettre des banderoles à nos fenêtres, et aussi donc crier des slogans en inventer pour la dignité de toutes et tous. Et comme pas d'agenda, on va s'écouter sur une petite musique qui nous vient de Mayotte, c'est Ramberamba par Jean-Briel Lacaina, et je vous dis à la semaine prochaine, même heure.
RESF, sincèrement, c'est un mouvement qui tente, c'est quasi un mouvement quasi terroriste, parce qu'ils sont là pour faire des coups de pub qui poussent les gens à foutre le feu un peu partout.
RESF, réseau Éducation sans frontières, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.